Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie, avec rien que de bonnes nouvelles en provenance d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles, également de la bonne musique et des invités. Et c'est tout de suite.
Bonjour et shalom à tous, et bien sûr ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Découverte, avec encore aujourd'hui un menu très copieux. Alors de quoi allons-nous parler? Eh bien, nous irons en Israël où la neige est arrivée, et nous parlerons du mont Hermon, appelé les yeux du pays. Sachez que le Conseil de Paris a adopté, il y a une semaine, la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'IHRA. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme, a déclaré la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Et puis, sachez que les Américains ont également adopté donc cette résolution. Décidément, depuis quelques mois, l'État juif Israël multiplie les succès diplomatiques, focus, regard, si vous voulez, sur les Juifs du Kosovo. Ça s'est passé le 5 février 1983. Klaus Barbie, ancien responsable de la Gestapo lyonnaise, est incarcéré à Lyon. L'Oscar scientifique du cinéma décerné à une équipe israélienne. Connaissez-vous l'Américain Varian Fry, c'est son nom. Cet Américain a sauvé près de 2000 personnes, intellectuelles, artistes, syndicalistes et juifs, leur permettant ainsi d'échapper à la police de Pétain et aux nazis. Lest We Forget, Paris accueille 200 portraits de survivants de la Shoah. Ce sont les derniers jours de cette exposition. Une délégation marocaine est arrivée en Israël et par ailleurs le ministre israélien de la Sécurité intérieure s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur marocain. Sachez également qu'un roman écrit par un professeur de l'université de Tel Aviv, traduit en arabe et vendu dans les librairies au Maroc. On connaît l'État juif, l'État d'Israël, c'est l'État juif. Mais sachez qu'il y a un autre État juif dont je vais vous parler. Il s'agit bien sûr du Birobidjan. Voilà, avant de développer toutes ces petites infos, je vous propose donc d'écouter une chanson en compagnie de Shlomo Artzi.
זאת שברכה לי מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לי לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם נהיה כבר גיק אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו משלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהעם הבא תחזור אלינו את יודעת לא הייתי שם לך סתם כך הנביאים כבר מתו ומי שינבא לי חלליות עפות למעלה ולמטה פתאום זה שיר געגועים כמו שנדמה לי בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו בשלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהערבה תחזור אלינו בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך סמלת גלה ואני תקוע בחליפת חיינו בשלט רחוק מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו
Shlomo Artzi. Il n'y a pas que chez nous que la neige est arrivée, elle est arrivée également en Israël. Immédiatement, bien sûr, on pense au mont Hermon, le sommet le plus élevé d'Israël, avec 2236 mètres d'altitude. Il abrite d'ailleurs la station de ski en période hors Covid, qui fait la joie de tous les Israéliens qui viennent y goûter aux sensations de la glisse et s'émerveiller devant ces magnifiques paysages enneigés. Mais le Hermon n'a pas toujours été caractérisé par son attrait touristique. Cela reste avant tout un poste extrêmement stratégique des frontières d'Israël avec le Liban et la Syrie. Et en tant que tel, il est donc chargé d'histoire et de symboles. Le Hermon appartient en fait à une chaîne de montagnes née de la collision des plaques arabiques et eurasiatiques, dont le sommet, à 2814 mètres d'altitude, se trouve en Syrie. Les Hébreux ont conquis le Hermon à l'époque de leur entrée en Israël, il y a quelque 3300 ans. La Torah fait état d'ailleurs de cette montagne dans le Deutéronome 3,8-9, sous différents noms, Sirion pour les Sidoniens, Sénir neige pour les Amoréens, ou encore Hermon, qui veut dire saint. Ce sera le dernier nom qui prévaudra donc jusqu'à aujourd'hui. Le roi David nous rappelle d'ailleurs le caractère sacré de l'endroit dans ses psaumes, comme il est bon et doux à des frères de vivre dans une étroite union, comme la rosée du Hermon qui descend sur les monts de Sion, car c'est là que Dieu a placé la bénédiction, la vie heureuse pour l'éternité. Longtemps sous domination étrangère, ce n'est qu'au cours de la guerre des six jours que Tsahal, l'armée israélienne, reconquiert l'endroit qui représente un atout stratégique de première importance dans le cadre de la prévention des intrusions ennemies du Nord. En effet, par temps clair, depuis son sommet, on a une vue tout à fait imprenable sur le plateau du Golan et jusqu'à la région de la Galilée et du lac de Tibériade, qui jusqu'alors étaient les cibles journalières d'obus syriens, et de l'autre côté, une vue sur la Syrie et même la capitale Damas. C'est le commandant de l'armée de l'air, Moti Ott, qui, avec l'accord de Moshe Dayan lors de la guerre des six jours, organise une opération spectaculaire, faisant atterrir le plus haut possible, à 2236 mètres d'altitude donc, un bataillon de la brigade Golani par hélicoptère pour prendre le contrôle total du mont Hermon et y bâtir une base militaire fortifiée. Et au début de la guerre de Kippour, l'effet de surprise et le déséquilibre des forces en présence, 300 000 soldats israéliens contre plus d'un million de Syriens, Égyptiens, Irakiens et Jordaniens, font vite pencher la balance en la défaveur de l'État juif et le mont Hermon tombe aux mains de l'ennemi. Mais comme à son habitude et à l'image de cette guerre de 1973 dans son ensemble et à force d'abnégation, de bravoure et d'ingéniosité, les troupes Golani, au terme d'un combat acharné au corps à corps pendant toute la nuit du 21 octobre, réussissent à faire fuir les troupes syriennes et au petit matin, le drapeau israélien flotte de nouveau au sommet du Hermon, surnommé dès lors les yeux du pays. Sachez que le Conseil de Paris a adopté il y a une semaine la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, l'IHRA. La position qui consiste à critiquer Israël dans son état comme existence même relève d'une définition de l'antisémitisme. C'est une nouvelle forme d'antisémitisme, c'est ce qu'a déclaré Madame Anne Hidalgo, la maire de Paris, lors d'un vote à l'Assemblée. Parce que l'État d'Israël a été créé, aussi parce qu'il y a eu la Shoah, Nous devons être très clairs avec les mots, que nous puissions porter les valeurs de liberté et que ces définitions-là, adoptées par notre Assemblée, nous permettra de donner à chaque mot sa signification précise et d'être à la hauteur de l'histoire de notre ville. Nous sommes la ville dans laquelle la rafle du Veldiv a été opérée. Nous sommes une ville dans laquelle une communauté juive d'Europe s'est installée et a fait de cette ville sa ville et de la République sa République. Et cette histoire-là nous engage, a-t-elle poursuivi. Paris est la première capitale européenne a adopté cette définition de l'antisémitisme de l'IHRA après des pays comme l'Espagne, l'Argentine et l'Albanie en Europe en tout cas, mais également aux États-Unis où l'administration de Joe Biden a adopté cette définition. Nous saluons le soutien ferme et sans réserve de l'administration Biden de la définition de l'IHRA qui reflète le large soutien qui existe pour la définition de l'antisémitisme la plus officielle et la plus internationalement acceptée, ainsi que l'opinion largement répandue selon laquelle il est extrêmement important de définir l'antisémitisme afin de le combattre avec succès, a déclaré l'organisation. Ceci est particulièrement essentiel à un moment où les actes d'antisémitisme et de haine des Juifs sont en augmentation dans le pays, mais également à l'étranger. La définition de travail de l'IHRA est un étalon d'or. Voilà. Alors maintenant, je vous propose une petite chanson des Doudaïm, Erev Shel Shanim, et on se retrouve tout de suite après, et je vous parlerai des Juifs du Kosovo.
ערב של שושנים נצאנע אל הבוסתן מור בסמים ולבונה ורגלך מפתן ערב של שושנים נצאנע אל הבוסתן מור בסמים ולבונה ורגלך מפתן לילה יורד לאט ורוח שושן אינו שבה אבא אל חי שלך שיר בלט זמר של אהבה לילה יורד לאט ורוח שושן אינו שבה הלך שלך שיר בלט זמר של אהבה שחר הומה יומה ראשך מהלת אל הלים פיך אל הבוקר שושנה הקטה פיינו לי שחר הומה יומה שך מהלת אל הלים פיך אל הבוקר שושנה בכתפינו לי לילה יורד לאט ורוח שושן אינו שבה אבא הלך שלך שיר בלט זמר של אהבה זמר של אהבה זמר של
Décidément, depuis quelques mois, l'État juif multiplie les succès diplomatiques après les accords d'Abraham impliquant les Émirats arabes unis et le Bahreïn, le rapprochement avec le Soudan puis avec le Maroc. Voici qu'à la suite d'une véritable première mondiale, une négociation par Zoom en raison de la pandémie de Covid-19 le 1er février de cette année, le Kosovo, État européen à majorité musulmane, indépendant depuis 2008, a reconnu Israël et a même annoncé son intention d'installer son ambassade à Jérusalem. L'étonnante négociation Zoom a réuni le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Gabi Ashkenazi, son homologue kosovar et Matthew Palmer, envoyé spécial américain pour les Balkans occidentaux. Plein feu donc sur le Kosovo et regard sur la petite communauté juive de ce pays. Le Kosovo constitue la preuve vivante de la dislocation en quelques années de la Yougoslavie du maréchal Tito. Les différentes entités qu'il a composées, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et Slovénie, se sont séparées, devenant autant d'États indépendants. Et voilà que le 17 février 2008, à la suite d'une guerre atroce entre l'armée yougoslave d'une part et l'armée de libération du Kosovo, épaulée par l'OTAN d'autre part, guerre qui a fait des milliers de victimes, une province de la Serbie, le Kosovo, donc capitale Pristina, s'est à son tour séparée, constituant en somme une séparation dans la séparation, avec une spécificité supplémentaire, 15% du pays, la partie nord, le Kosovo et Métochie, peuplés de Serbes, refusent d'accepter le nouveau pouvoir. Le Kosovo, désormais république indépendante, n'est pas reconnu par tous les États. En mars 2020, sur les 193 États membres de l'ONU, 92 avaient reconnu le Kosovo, 96 contre et 5 se sont abstenus. Le Kosovo, ce sont environ 11 000 km² et 2 millions d'habitants. En 2021, la présidente intérimaire et le premier ministre Abdullah Öcalan, 90% des habitants du pays sont donc des musulmans sunnites avec une minorité Bektachi. Mais on trouve aussi au Kosovo des Albanais, des Bosniaques, des Serbes, des Turcs, des Goran, des Roms Ashkali et des Roms égyptiens, des musulmans salafistes, des protestants, des catholiques, des chrétiens orthodoxes et, évidemment, vous vous en seriez douté, des juifs. Alors un petit retour sur l'histoire des juifs kosovars. Au meilleur moment démographique de son histoire, la communauté juive du Kosovo a compté un millier d'âmes, comme c'est le cas pour l'ensemble de l'ancienne Yougoslavie. Les juifs qui ont vécu au Kosovo sont pour l'essentiel venus d'Espagne et du Portugal pour échapper à l'Inquisition. Ils ont vécu au long des siècles en bonne intelligence avec leur population majoritaire, exerçant les métiers les plus divers. Longtemps, le bazar juif de Pristina, à l'intérieur du Bezistan, a été une attraction locale. La synagogue, dite Chavra Synagoga, se trouvait au bout du bazar. Bâtie pendant la période ottomane, vers 1800, les synagogues du pays ont été rasées sous le régime communiste. Le principe de la construction d'une nouvelle synagogue sous l'égide de la Maison d'Israël au Kosovo a été acté en 2016 par le conseil municipal de Pristina et a pratiquement abouti en 2021, même si la population juive n'est plus que quelques dizaines d'âmes. Un musée juif devrait également voir le jour. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs ont été en sécurité au Kosovo, qui a été même une terre d'asile pour des Juifs venus de pays voisins. De nombreux justes kosovars et albanais ont d'ailleurs sauvé des Juifs de la tourmente nazie. Plus près de chez nous, en mai 2013, dans le cadre d'une semaine de la tolérance, une plaque en souvenir des Juifs assassinés durant la Shoah a été inaugurée à Pristina, donc la capitale. Et selon les dirigeants de la communauté juive, 258 Juifs de Pristina furent déportés dans un camp en Belgique et 92 d'entre eux y trouvèrent la mort. Ces dernières années, des commémorations de Hanouka ont réuni dans des hôtels de Pristina des Juifs et des musulmans. La communauté juive qui a longtemps été dirigée par Votim Demiri, le patriarche a accueilli avec ferveur la nouvelle de l'établissement de relations diplomatiques entre Jérusalem et Pristina. Une page nouvelle s'ouvre désormais.
Magatene ste gitraye lo mirzen auf feibig machatunem lo mirzen auf feibig machatunem ihr gibe weg ma tochter verschni sie soll bald nicht tun wer du spunim ihr gibe weg ma tochter ich nie, sie soll bald nicht tun, wer du spunim. Mach ein Mann, mach ein Getreue, mein Kind soll dir Fried nicht erwecken. Mein Kind soll dir Fried nicht erwecken. Und Tome wird dir sein, ein Nadel auf mein Kind, wie eine eigene Mama soll dir das verdecken.
Et c'était la chanteuse Talila. Une page d'histoire à présent, c'était le 5 février 1983. Klaus Barbie, ancien responsable de la Gestapo lyonnaise, est incarcéré à Lyon. Nikolaus Barbie, dit Klaus Barbie, est né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg. Il est mort le 25 septembre 1991 à la prison Saint-Joseph à Lyon. C'est un criminel de guerre allemand, officier SS sous le régime nazi, installé en France dans la préfecture du Rhône. De février 1943 à septembre 1944, il est notamment chef de la Gestapo de Lyon. Pendant cette période, on lui attribue pour la seule région de Lyon près de 10 000 arrestations, 1 046 fusillés, 6 000 morts ou disparus. Il est d'ailleurs surnommé le boucher de Lyon en raison des nombreuses atrocités qu'il a commises, notamment la torture du chef de la résistance française, Jean Moulin. Juste après la guerre, en 1945, Klaus Barbie fuit en Amérique latine, au Pérou, puis en Bolivie. Il échappe ainsi pendant près de 40 ans à la justice française. Mais le 5 février 1983, après avoir été extradé de la Bolivie vers la France par le gouvernement de M. Suazo, il est incarcéré à Lyon. Ce sont Serge et Beate Klarsfeld, après une longue traque, qui le retrouvent en Bolivie. Là-bas, il travaille pendant plusieurs décennies pour les services secrets du pays. Ses méthodes d'interrogatoire sont utilisées par la dictature contre les opposants. Il bénéficie en outre de protections au plus haut niveau de l'État bolivien, empêchant ainsi son extradition vers la France. L'ancien dignitaire nazi est pourtant repéré par les services secrets américains, allemands et français. Il faudra toutefois attendre la chute du dictateur bolivien Hugo Banzer et la démocratisation du régime bolivien pour que les autorités l'arrêtent et acceptent donc de le livrer à la justice française. Le procès de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo durant la Seconde Guerre mondiale, s'ouvre donc le 11 mai 1987 à Lyon. Il est jugé par la cour d'assises du Rhône du 11 mai au 4 juillet 1987 et pour la première fois, ce procès d'assises est filmé. 107 témoins et 42 avocats prennent la parole en 37 jours d'audience. En détention, Klaus Altmann reconnaît vite être Barbie, avoir participé à l'arrestation de résistants, notamment donc celle de Jean Moulin, mais il nie être responsable de la déportation de Juifs. Toutefois, des dizaines de témoignages et de documents prouvent son implication active dans la Shoah. La preuve irréfutable de son implication est un télégramme envoyé par Klaus Barbie dans lequel il rend compte de l'arrestation des 44 enfants d'Izieux. Ce document atteste de son rôle clé dans la déportation de ces enfants âgés de 2 à 14 ans, d'abord à Drancy puis à Auschwitz. Il indique qu'il savait pertinemment le sort qui les attendait. À l'issue de ce procès, Klaus Barbie est reconnu coupable des 17 crimes contre l'humanité qui avaient été retenus par l'accusation, à savoir torture, exécution sommaire, déportation, dont celle donc le 6 avril 1944 des 44 enfants juifs et de 7 adultes de la maison d'enfants d'Izieux qui seront assassinés à Auschwitz. Il est condamné le 4 juillet 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité et jusqu'au dernier jour, il n'aura exprimé aucun remords. Il est mort 3 ans plus tard en détention. Direction l'Allemagne à présent, mieux vaut tard que jamais, le tribunal de la ville de Neuruppin en Allemagne a prononcé un acte d'accusation à l'encontre d'un ancien gardien du camp nazi de Sachsenhausen à Oranienburg au nord de Berlin pour avoir sciemment et volontairement aidé et encouragé le meurtre de plus de 3500 déportés entre 1942 et 1945. Malgré son âge, il a 100 ans, mais oui, il a été inculpé pour complicité de meurtre. Les juges ont considéré qu'il devra subir son procès malgré son grand âge. Depuis la fin de la guerre, cet ancien nazi n'avait jamais été inquiété et il vit aujourd'hui tranquillement dans la région de Brandenburg, anciennement en Allemagne de l'Est. Plus de 75 ans après la fin de la guerre, la justice allemande instruit encore une dizaine de dossiers concernant des anciens nazis résidant en Allemagne. Il y a quelques jours, une ancienne secrétaire du camp de concentration de Stutthof, âgée de 95 ans, a été inculpée par le tribunal d'Itzbeu pour sa complicité dans la mort de plus de 10 000 déportés. L'Allemagne se montre certes très sévère envers les nazis, même ceux qui n'occupaient pas des postes au haut de la pyramide, mais les victimes et leurs représentants considèrent que ces actions sont très tardives et que ces criminels ont passé des décennies tranquilles depuis leurs méfaits.
Ta ruh אותך רוצה הלילה עם הצלילים והדממה כה יפת לי ולמה הלכת לי לעולם אחר לפעמים
Atli Laila Boa Sharabi. Je voudrais maintenant vous raconter l'histoire de Monsieur Varian Fry, un Américain dans la France de Pétain. En 40-41, Varian, c'est son prénom, Fry, c'est son nom de famille, du centre américain de secours a sauvé près de 2000 personnes, intellectuels, artistes, syndicalistes et juifs, leur permettant d'échapper à la police de Pétain et aux nazis. Et il en a aidé des milliers d'autres. Il a d'ailleurs reçu la médaille des Justes en 1996. Lisa et Hans Fitko, qui aidèrent près de 300 personnes à traverser les Pyrénées, faisaient partie de son réseau. Ils furent décorés à Yad Vashem en 2002, de même qu'il reçut une aide précieuse du vice-consul américain de Marseille, M. Harry Bingham, honoré lui aussi en mars 2005. Dès décembre 1942, Varian Fry parlait de l'extermination des Juifs. Ce dernier n'avait pas 35 ans quand il écrivit ses mémoires. Il était rentré à New York en septembre 1941, après 13 mois passés à Marseille à se battre contre la police de Pétain et son propre consulat. Les mémorialistes sont souvent d'un âge respectable. Ils attendent d'avoir traversé leur siècle pour se retourner sur leurs pas. Varian Fry n'attendit pas. Il était journaliste, il observait, il analysait. Et il voulait témoigner dans l'urgence. Il voulait réveiller l'opinion publique, convaincu que personne ne pouvait supporter l'idée qu'en Europe, on tuait en masse des hommes et des femmes, certains pour leurs idées et d'autres des familles entières parce qu'ils étaient juifs. Comment pouvait-on tolérer cela ? Il se disait que les gens doutaient parce qu'en temps de guerre, on raconte les pires choses sur l'ennemi. Cela était arrivé pendant la Première Guerre mondiale. Lui-même, d'ailleurs, un an après la nuit des longs couteaux, en 1935, il était à Berlin et interviewait Putzi Hanschfengel, le pianiste d'Hitler qui était chargé des contacts avec la presse étrangère en raison de sa maîtrise parfaite de l'anglais. et quand celui-ci lui avait affirmé avec son accent raffiné de Harvard que le parti nazi entendait régler une fois pour toutes le problème juif, Varian Fry ne l'avait pas cru. Mais 3 ans plus tard, au moment de la nuit de cristal, en novembre 1938, il avait compris l'étendue de son erreur. Varian Fry était convaincu que s'il racontait ce qu'il avait vu et vécu dans la France de Pétain, le doute céderait. Mais personne ne voulait l'entendre à Washington, dans le monde des affaires qui entourait le président Roosevelt. Alors, le 21 décembre 1942, peu après son retour à New York, il publia dans The New Republic un article intitulé « Le massacre des Juifs ». Et dans cet article, il détaillait avec une remarquable précision, compte tenu de l'époque bien sûr, près de 2 millions de Juifs européens ont déjà été massacrés depuis le début de la guerre et les quelques 5 millions restants qui vivent sous la botte nazie sont destinés à être exterminés, écrit-il. Sur les 275 000 juifs qui vivaient en Allemagne et en Autriche au moment de l'Anschluss, poursuit-il, il n'en reste plus que 52 à 55 000. Puis il énumère les chiffres pour la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Lettonie, les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique et la France. Il additionne avec minutie ces chiffres recueillis par les organisations juives américaines. Parmi les méthodes utilisées par les nazis, il commence par la plus courante, la plus banale, la mort lente par la famine. Il décrit la déportation avec les juifs entassés par centaines de milliers dans des wagons à bestiaux et dont un tiers sont morts à l'arrivée. Il dénonce les centres d'extermination où les juifs sont tués par un gaz toxique ou par l'électricité, des camions spécialement construits dans lesquels les juifs sont asphyxiés par le monoxyde de carbone des gaz d'échappement. Il parle des mines où ils meurent d'épuisement et du fait des émanations et des fours crématoires et des exécutions sommaires avec les victimes nues debout au bord des fosses qu'elles ont elles-mêmes creusées. Et pour finir, il évoque une lettre qui vient de lui parvenir de Paris et qui lui apprend la fameuse rafle du Veldiv du mois de juillet. 15 000 femmes et enfants qu'on a parqués pendant une semaine avec pour tout lit de la paille, une nourriture insuffisante et aucun équipement sanitaire. Puis on les a entassés dans des wagons à bestiaux et expédiés vers une destination inconnue en Europe orientale. Varian Fry précise que son informateur, un employé de la SNCF, a ramassé un bout de papier sur la voie ferrée. Il y a plus de 50 femmes dans ce wagon à bestiaux, dont certaines sont malades, et ça fait des jours qu'on nous refuse même les commodités les plus élémentaires. Et quand on évacue le camp des 1000 près d'Aix-en-Provence, qu'il connaît bien, il a d'ailleurs aidé plusieurs internés à s'évader, dont Leon Fotschranger, l'auteur du Juif Sus. Le spectacle est insoutenable, lui écrit un Français qui n'est pas juif, précise l'auteur. La plupart étaient en haillons, pâles, amaigris, épuisés par l'angoisse. Beaucoup sanglotaient en silence, ces gens étaient brisés. Il décrit encore les rafles et la panique qui s'empare des réfugiés. Un couple s'est d'ailleurs jeté par la fenêtre sur le cours Belzins au moment où la police est venue les arrêter. D'autres s'enfuient et disparaissent dans la nature. Comme ces articles n'avaient pas d'écho, il écrivit alors un livre qui décrit son expérience et sa propre prise de conscience en espérant que devant ces preuves, l'opinion publique ferait pression sur le politique. Mais dans la guerre que menèrent les Américains après Pearl Harbor, les Juifs européens occupaient l'angle mort, il faut bien le dire. Ils ne reviendront dans le regard des vivants qu'avec la libération des camps de la mort. Alors je vous demande de vous souvenir aujourd'hui de M. Varian Fry, un Américain dans la France de Pétain.
En Aheim, bin ich jung geblieben. Es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt, in der Fremd, weit von Mames Augen, hat in Schmutz mich die Gast der Zeugen, geworden ist von mir a Beuleriat. Ich bin a Fremd, der fähigster Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, wie's'n teut. A rein und fiese, verlag hennen a breut. Oi, oi, ich war nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mich heie, wenn ich tappe so Magnat. Ich bin aber reime, gora Beuleriat. In der Fremd nicht gehabt zum Leben. Gebeten bräut, an Ormer pflegt noch geben. Nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Es wächst a Ganef, es ist mir kuhem geworden. A Ganef bin ich nur a Wäuleriat. Ich bin a Vreimel, der fähigste Marwiche. A größer Künstler, harbet leicht und sicher. A jatta kleiner, a rein in Kutschement. A reusa massig, a seltener Talent. Oi, oi, ich war nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Ich zipp nur bei Karten. Schmutzige Magnaten, hab lieber Menschen am milden Anasprat. Ich bin a Vreime, gora Wäuleriat. Scheu nicht lang wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von fiese Mäuern. Nur ein Bakosch, ich wollt das so gewollt. Noch mein Teut in a Tog ertrieben. So läuft mein Matzewe stehen geschrieben. Mit Eus, Jes, Größe und von Gold. Da liegt a Vreime, der fähigste Marwiche. A Mensch, a größer Gewein, wollt von ihm sicher. A Mensch, a feiner, mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott allein er will. Oi, oi, wenn i berühm, wollt gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt. Da liegt a Vreime. Hey, wenn die Berühme wollt gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt. Da liegt a Vreime, jener Wäuleriat.
Chava Alberstein. Sachez qu'une délégation marocaine est arrivée ce mardi en Israël dans la lignée, bien sûr, de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays fin 2020. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. La mission est conduite par M. Abderrahim Beyout, le chef du bureau de liaison du Maroc en Israël, qui se situera à Tel Aviv. Et d'après mes informations, ce sera Rof Ayarkon, donc la rue Ayarkon qui longe la mer à Tel Aviv. Le chef de la diplomatie israélienne, M. Gabi Ashkenazi, a rencontré d'ailleurs le diplomate marocain à son arrivée et lui a souhaité bonne chance dans son importante mission qui vise à développer les collaborations entre les deux pays. M. Abderrahim Beyout s'est dit pour sa part très heureux d'avoir été nommé à ce poste en Israël par le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, et se réjouit de pouvoir promouvoir les liens entre les deux pays Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire, c'est féliciter l'Israélien Ashkenazi. Le Maroc, je vous le rappelle, a été le quatrième pays arabe à annoncer en 2020 la normalisation de ses relations avec Israël après les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et le Soudan, dans le cadre d'accords négociés par l'administration de l'ancien président américain Donald Trump. Fin janvier, les deux pays ont d'ailleurs annoncé la création de groupes de travail en vue de renforcer la coopération bilatérale. Ceci dit, le ministre israélien de l'Intérieur, M. Amir Ohana, a téléphoné personnellement au ministre marocain de l'Intérieur, M. Abel Wafi Laftit, également en charge de la sécurité intérieure. Le ministre israélien d'origine marocaine a commencé par s'exprimer en arabe et a salué son interlocuteur avant de lui exprimer sa joie de la reprise des relations entre Israël et le Maroc. Cette conversation a été qualifiée de particulièrement chaleureuse et les deux ministres ont convenu qu'il s'agit d'un processus important pour toute la région. Ils se sont d'ailleurs mutuellement invités à se rendre bientôt en Israël ou au Maroc afin de renforcer la coopération sur les sujets touchant à la sécurité intérieure. Et ce n'est pas tout. Un roman écrit par un professeur de l'université de Tel Aviv a été traduit en arabe et vendu dans les librairies au Maroc. Succès donc impressionnant pour le professeur Gabriel Ben Simchon de l'école de cinéma et de télévision Steve Tisch de l'université de Tel Aviv, dont le roman « La fille à la chemise bleue » a donc été traduit en arabe marocain. C'est le premier roman israélien traduit en arabe au Maroc. Le roman, qui a été traduit par Yediot Books en 2013, raconte en fait l'histoire d'amour entre un garçon immigré du Maroc et une Sabra, une Israélienne née en Israël, amoureuse d'un survivant de la Shoah dans le contexte des premières années de l'État d'Israël et de la Grande Alia du Maroc. Le livre a été sélectionné pour traduction par le professeur Mohamed El-Mehdi Haroui de l'université Mohamed V de Rabat, qui suit et étudie les travaux de Ben Simchon en littérature et au théâtre depuis de nombreuses années et a été traduit par son étudiant, le docteur Ayashi El Hadraoui. J'ai grandi dans la ville de Sefrou au Maroc et immigré en Israël à l'âge de 10 ans, raconte le professeur Ben Simchon. Au cours de ma carrière universitaire, j'ai beaucoup étudié la culture marocaine et j'ai toujours gardé une place spéciale dans mon cœur pour la richesse et la diversité qui la caractérise. En tant que juif marocain, j'ai le sentiment d'avoir réalisé un rêve, à savoir le fait que mes œuvres soient lues dans ma ville natale est pour moi une grande fierté. Ma pièce de théâtre, Un roi marocain, produite par le Théâtre national Abima à Tel Aviv, lauréate du prix Liber pour le théâtre juif classique de l'Université de Tel Aviv, doit sortir également prochainement au Théâtre national Mohamed V de Rabat et j'espère qu'à la suite des accords de paix, d'autres écrivains israéliens verront bientôt le roman traduit en marocain. Nous sommes témoins ces derniers temps de l'intérêt croissant porté dans le monde arabe pour Israël et sa culture, en particulier pour les juifs des pays arabes, a encore déclaré le professeur Eyal Sisser, recteur adjoint de l'université de Tel Aviv et spécialiste des affaires du Moyen-Orient. Nous l'avons vu en Égypte et dans d'autres pays du Moyen-Orient, l'émigration vers Israël à partir des pays arabes de communautés juives qui y vivaient depuis de 1000 ans a causé de graves dommages économiques dans ces pays. Il n'est donc pas surprenant que nous voyons émerger dans le contexte des accords de normalisation des relations diplomatiques l'expression de la nostalgie d'un passé dans lequel juifs et musulmans vivaient ensemble. À cet égard, la traduction du livre du professeur Gabriel Ben Simchon en arabe marocain constitue une étape supplémentaire dans le processus de rapprochement de nos cœurs.
Je suis sentimental et pourtant je ne fais pas de mal. On nommer l'Oriental. On critique ma vie, mais on aime ma compagnie. À tout instant, mon cœur s'attache, mon cœur joue cache-cache. Même quand je n'ai pas un dollar, je chante et j'oublie mon cafard. On m'a surnommé l'Oriental, car moi je suis sentimental. Car moi je suis sentimental, et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Oriental. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qu'il me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole. La chanson c'est comme l'amour, ça fait rêver la nuit, le jour. On m'a surnommé l'Oriental, tellement je suis sentimental. Et l'on m'appelle l'Oriental, le bras haut, regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas mal. On m'a surnommé l'Oriental.
Et nous l'aimons beaucoup, cet oriental, Enrico Macias. Et à présent, parlons cinéma. En effet, l'Oscar scientifique et d'ingénierie 2021 va être remis au professeur Meyer Feder de la faculté d'ingénierie de l'Université de Tel Aviv et au docteur Tzvi Rejnik, son ancien étudiant et cofondateur de la start-up Amimon. Cette récompense cinématographique, dont les lauréats sont généralement annoncés en parallèle de la traditionnelle cérémonie des Oscars, couronne cette année la technologie de vidéo sans fil développé par l'équipe israélienne. Selon le communiqué, cette technologie est capable de transférer des séquences vidéo de très haute qualité à partir de sites de tournage multiples instantanément et sans aucun décalage, permettant ainsi aux réalisateurs et à l'équipe de contrôle une maîtrise totale sur tous les angles de prise de vue. C'est un grand jour pour moi, une grande fierté pour l'Université de Tel Aviv, s'est ému le professeur Meyer Feder. Tout au long de ma carrière universitaire, j'ai remporté de nombreux prix, mais il ne fait aucun doute que l'Oscar est de loin le plus célèbre. C'est un prix que tout le monde connaît. Pour moi et pour l'équipe avec laquelle nous avons développé cette technologie, c'est un grand succès dont je suis fière, a-t-il ajouté. Et nous également, on est très fiers.
יש לי חבר, ג'ים ג'ים למשים, איתו הכי כיף לעשות חיים, נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אחר כזה חבר איך אפשר לוותר, יש לי חברה שחורה איתה תמיד, שתינו מגדלות גור חתולים, נכון שהיא ממני לגמרי שונה, אבל היא חברה כזאת נפלאה.
Voilà, c'est donc avec Sarit Khadat que nous terminons cette émission découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. En ce qui concerne le Birobidjan, je vous en parlerai la semaine prochaine. J'espère donc que cette émission était intéressante. Je vous retrouverai la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche de 18 à 19 heures. Dans quelques instants, après 12 heures, vous retrouverez les informations en direct d'Israël avec les informations de Jérusalem et de Tel Aviv. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom, Agit Shabbos et à la semaine prochaine.
Découverte, découverte. Aviva Belef en votre compagnie avec rien que de bonnes nouvelles en provenant d'Israël et du monde juif, mais pas seulement de bonnes nouvelles. Également de la bonne musique et des invités.